vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48 FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une émission spéciale La Minute de l'Adil depuis le QPV de Fontanille. Une émission sur le thème maîtriser l'énergie, conseil pratique avec l'équipe de l'Adil. L'équipe de l'Adil qui vient de tenir ici des ateliers justement sur ce thème-là. Et si vous pouviez réduire vous aussi vos factures d'énergie tout en faisant du bien à la planète, on en parle aujourd'hui avec Héloïse Coste, directrice de l'Adil et juriste spécialisée en droit immobilier. Bonjour Héloïse.
Bonjour, alors aujourd'hui moi je vais vous éclairer sur les aspects juridiques, les droits et les obligations en matière d'énergie.
Élodie Trochesec, chargée de médiation préventive.
Bonjour, moi je vais vous parler des solutions d'accompagnement pour les ménages liées aux difficultés énergétiques.
Et Jérémy Coquerel, conseiller France Rénov. Bonjour Jérémy.
Bonjour à tous. Alors moi, mon rôle, ça va être de vous donner un peu des astuces, des solutions concrètes au quotidien pour pouvoir optimiser vos consommations, faire des économies, pourquoi pas, voilà, des petits éco-gestes au quotidien, analyser des factures, analyser des diagnostics, etc.
Alors dans cette émission spéciale, on va donc parler de vos droits, des aides disponibles et des gestes simples qui font la différence. Et en fin d'émission, on vous proposera également aussi une petite surprise. Alors Héloïse, on va commencer avec toi. On entend souvent parler de passoire thermique, mais qu'est-ce que cela implique concrètement pour les locataires et les propriétaires ?
Alors effectivement, c'est un sujet plus que d'actualité avec l'interdiction de mise en location des logements classés G sur le DPE au 1er janvier 2025, donc dans les tout prochains jours. Alors les passoires thermiques, ce sont les logements qui consomment effectivement le plus d'énergie. Et donc pour les identifier, en fait, ce sont les logements qui sont classés F ou G sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Donc pour rappel, ce DPE, donc c'est un diagnostic qui existe depuis 2007, donc il a quelques années, et il va permettre de comparer la performance énergétique des logements pour une utilisation standard, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder la consommation réelle des gens dans le logement, est-ce qu'ils chauffent à 22 degrés ou à 19, est-ce qu'ils allument toutes les lumières ou est-ce qu'ils vivent dans le noir. On va vraiment regarder pour un usage standard quelle est la consommation énergétique du logement par mètre carré et par an. Et on va avoir comme ça une note qui classe le logement de A, la meilleure note pour les logements les plus économes, à la lettre G pour les logements les plus énergivores, ceux qui consomment le plus d'énergie. On sait aujourd'hui, payer ses factures d'énergie, ça peut être compliqué. Donc c'est important d'identifier quand on va acheter ou louer un logement, quel est son niveau de performance énergétique. Les logements les plus énergivores, donc les logements classés G, vont être à partir du 1er janvier 2025 interdits à la location. Ils ne pourront plus être loués, ils seront considérés comme non décents. Donc pour les propriétaires bailleurs notamment, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'avant de mettre en location ce logement, il faudra envisager des travaux de rénovation énergétique. Pour les locataires, qu'est-ce que ça implique ? Ils sont dans un logement qui est très énergivore, ils vont pouvoir demander des travaux à leur propriétaire, d'abord à l'amiable, mais ils vont également pouvoir, si le propriétaire refuse de faire des travaux, saisir le tribunal pour exiger la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique. Donc souvent, ça va être des travaux d'isolation, d'isolation des murs, du toit, des fenêtres, ou de remplacement du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Voilà, ce sont ces travaux-là qui sont prévus. Au-delà de 2025, il faut savoir que le calendrier de non-décence énergétique va se renforcer dans les années à venir. Donc à partir du 1er janvier 2028, ce seront les logements classés F qui seront considérés comme non-décents. Et à partir du 1er janvier 2034, les logements classés E. Donc il y a vraiment une ambition d'améliorer la performance énergétique du parc de logements en France pour qu'à échéance 2050, on ait un parc de logements qui soit constitué uniquement de logements les plus performants, donc c'est-à-dire classés A, B ou C sur ce fameux diagnostic de performance énergétique.
Et par rapport, Héloïse, à l'atelier que vous avez tenu ce matin ici sur le quartier de Fontanille, il y a des problèmes de ce type ici ?
Alors, aujourd'hui, effectivement, sur le quartier de Fontanille, il y a un gros programme de rénovation énergétique qui a été réalisé il y a quelques années. Donc, on a la chance d'avoir des logements qui ont été isolés, donc qui sont performants. On n'a pas de passoire énergétique sur le quartier. Donc, c'est pas... aujourd'hui, sur le quartier de Fontanille, l'enjeu, c'est pas tellement la rénovation énergétique des logements. Ça va être plutôt... les usages, les habitudes, les consommations d'énergie autres dans le logement.
Voilà. Et peut-être aussi les factures d'électricité, on va en parler tout de suite avec Elodie. Elodie, si un ménage n'arrive plus à payer ses factures d'électricité, quelles sont les premières étapes à suivre ?
Les premières étapes à suivre, c'est surtout de ne pas s'isoler, d'essayer de trouver des solutions, d'être acteur de sa consommation. Souvent, on rencontre des gens qui ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité qui s'accumulent avec le temps, ou qui ont des logements énergivores, ou qui ont l'impression d'avoir des surconsommations parce qu'ils pensent avoir une bonne gestion de leurs équipements, mais en fait, c'est pas toujours le cas. C'est important aussi de savoir qu'il existe... des aides financières pour aider les ménages à payer leurs factures d'électricité. Je pense notamment au chèque énergie. Évidemment, c'est sous condition de ressources. Mais c'est important de savoir que ça existe. Il y a aussi le fonds de solidarité pour le logement qui est porté par le conseil départemental de la Lozère. Et c'est une aide qui est très utile pour les ménages qui sont dans des situations d'impayés, qui ont l'impression de pas s'en sortir. Et aussi, surtout, de savoir que ben, on est là aussi, nous, à l'ADIL. C'est important maintenant d'avoir des gens en réalité, enfin, pas quelqu'un, un conseiller au téléphone vers qui on peut se tourner. C'est important de savoir qu'on est là pour les écouter et pour les aider à trouver des solutions qui soient adaptées à leur situation. On peut négocier des délais de paiement avec le fournisseur d'énergie qu'ils peuvent avoir, ou éventuellement négocier sur certaines autres choses comme les contrats, essayer de trouver le système de facturation qui leur convient le mieux, des petites choses qui peuvent être aussi un caillou dans la chaussure, mais qui peuvent se régler facilement.
Voilà, beaucoup de leviers à actionner concernant les factures d'électricité.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas forcément évident de lire une facture d'énergie. On a l'habitude, on le reçoit régulièrement, bon, on regarde le montant à payer et puis on la classe. Mais en fait, c'est intéressant de l'analyser. Et donc, on a cette expertise, effectivement, à l'ADIL, pour analyser les factures d'énergie et pour pouvoir aider le ménage à mieux comprendre sa consommation et à trouver des leviers d'action. On a eu, il y a quelques semaines, une personne qui est venue et qui nous expliquait utiliser tous ses appareils électroménagers la nuit pour faire des économies. Et en analysant sa facture, on s'est rendu compte qu'elle bénéficiait pas du tarif heure pleine, heure creuse. Donc elle utilisait ses équipements la nuit sans aucun intérêt, en tout cas pas d'intérêt financier. Donc voilà, c'est important de refaire le point, de regarder quelle est la puissance souscrite est adaptée, quel est le rythme de facturation, quelles sont les consommations globales, est-ce que c'est cohérent par rapport au logement, au diagnostic de performance énergétique du logement, et quels peuvent être les leviers d'action. On pense, c'est vrai, au choix du fournisseur d'énergie, mais même chaque fournisseur d'énergie propose aussi plein de tarifs différents, donc des tarifs réglementés, il y a des tarifs libres, et donc c'est important d'essayer de trouver le contrat qui soit le plus adapté à la situation et de faire vraiment cette analyse. Et pour les personnes qui sont en difficulté, donc qui vont avoir du mal à payer une ou plusieurs factures d'énergie et qui viennent nous voir, bien sûr on va essayer de les aider à trouver la solution financière pour payer cette facture, mais on va essayer également de prendre un peu de hauteur et de regarder quelle est la situation, quelle est la consommation globale, pour que dans 2, 3, 6 mois, on ne se retrouve pas avec la même difficulté financière à payer la prochaine facture.
Voilà, et quand on a activé tous ces leviers, il y en a encore d'autres, parce qu'on peut aussi réduire sa facture d'électricité par des gestes simples chez soi. On voit ici que vous avez amené pour cet atelier des prises électriques où on peut éteindre facilement à l'aide d'un bouton. Mais justement, pour optimiser la consommation d'énergie au quotidien, Jérémy, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Eh ben oui, face au coût des énergies qui augmente, on l'a bien vu ce matin lors de l'atelier qu'on a fait ici, on a proposé aux gens un peu d'évaluer le coût de consommation de tel ou tel équipement. Et puis ben pour chacun de ces équipements, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour baisser un peu les consommations et donc baisser la facture. Bon, alors quelques exemples comme ça, on a parlé des systèmes de chauffage. Donc par exemple, on peut le mettre en hors-gel quand on est absent. On peut essayer de régler la température dans les pièces pour que ce soit la bonne température pour chaque pièce. Nettoyer les radiateurs, etc., ventiler son logement, voilà, toutes ces notions qu'on a pu voir sur le volet chauffage en tout cas, mais aussi pour plein de petites choses concrètes du quotidien, je pense au réfrigérateur, ben voilà, on est vigilant à ne pas mettre des plats encore tièdes dedans parce qu'on va surconsommer, on est vigilant à ce que les joints soient encore en bon état, on peut voilà, tester un peu cette étanchéité des joints pour vérifier justement qu'on n'ait pas de soucis. Je sais pas si on est sur la production d'eau chaude par exemple, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un ballon d'eau chaude qui chauffe de l'eau à 90 pour se doucher ? Bah, pas sûr. Du coup, ça se règle. On peut régler une température à 55 degrés à peu près, qui va éviter la prolifération de bactéries, mais qui va donner une eau chaude de qualité pour pouvoir prendre des douches bien agréables sans se brûler.
C'est pas 60 degrés 55 degrés donc.
J'ai dit 55, c'est pour optimiser vraiment au maximum.
Mais bah oui, je vois ça, c'est bien, c'est bien. Oui, 60 degrés, c'est déjà bien. Oui.
Et puis voilà, tous les équipements qu'on a qui sont en veille permanente. Je pense à la box qu'on peut éteindre la nuit, je pense à la télévision.
Ça, on s'en rend pas compte, mais en fait, à force, multiplié par le nombre d'appareils et de jours, sur la facture, ça se ressent.
Et bah, t'as raison, parce qu'en fait, ça, plus ça, plus ça, bah, à la fin, bon, là, je m'appuie sur ce que dit l'ADEME, mais on peut faire 10-30% d'économie. Et sur une facture totale, mine de rien, ça joue beaucoup.
Alors entre ça, la renégociation avec son fournisseur, mais au final, on peut gagner beaucoup.
Effectivement, c'est vrai qu'on sous-estime, je crois, assez souvent l'impact des petits gestes. Parce que c'est vrai, quand on se dit « oui, je couvre ma casserole avec un couvercle, je mets que des aliments froids, je dégivre mon congélateur ». Je mets un cycle éco à ma machine à laver. Bon, on se dit, c'est vraiment pas grand-chose. Et est-ce que réellement, je fais des économies ? Mais oui, Jérémy le rappelait, c'est 15-20% sur la facture annuelle. Donc, c'est vraiment pas négligeable dans cette période où les prix de l'énergie ont quand même beaucoup augmenté. Et sur le choix du tarif, c'est pareil. On peut réellement... Il y a un site, hein, sur le site du médiateur national de l'énergie, un comparateur où je peux rentrer effectivement mes habitudes, ma consommation de l'année dernière, etc. Et je vais pouvoir avoir... présentation des différentes offres des différents fournisseurs qui sont disponibles avec le coût annuel estimé, et on peut vraiment voir des économies de 25-30% d'un fournisseur d'énergie et d'un contrat à l'autre.
Et de plus, il existe aussi des aides financières disponibles qu'on a vues tout au long de ces émissions. Peut-être on peut les rappeler, Jérémy.
Et oui, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que on peut avoir les meilleurs radiateurs du monde. Si le logement est mal isolé, ben on consommera quand même énormément. Donc il n'y a pas seulement les consommations, mais évidemment l'importance de faire des travaux d'amélioration énergétique quand c'est possible. Je parlais de l'isolation, c'est souvent la priorité, mais aussi intervenir sur le système de chauffage, etc. Et effectivement, pour ces travaux, il existe des aides financières. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y a les aides financières de l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, les certificats d'économie d'énergie, des éco-prêts à taux zéro, certaines sous conditions de ressources, certaines non. Et là, il y a vraiment un intérêt de pouvoir essayer de... en fonction des situations, des programmes de travaux, de trouver ce qui va être le plus... d'optimiser au maximum, en tout cas, toutes ces aides financières pour pouvoir, avoir un projet de travaux pertinent, efficace derrière. Donc là, pour le coup, c'est dans les espaces conseils France Rénov et notamment à la DIL, on peut consulter des conseillers France Rénov dont je fais partie pour avoir des conseils sur tout ça.
Voilà, et également, on rappelle, hein, vous tenez des permanences plutôt les jeudis, hein, Montlozé-Régoulé, Saint-Alban.
Tout à fait, Florac, Langogne.
Flora qui est Langogne, voilà.
Et en 2025, on va étendre encore nos permanences, petit teasing. On viendra en parler avec plaisir.
D'accord, on ne le dit pas encore.
On ne le dit pas encore.
Très bien.
Peut-être pour finir...
On avait une surprise, je crois. J'annonçais une surprise.
Une surprise pour les auditeurs, mais aussi pour toi, pour voir si effectivement... Tu es au point sur les économies d'énergie, donc un petit vrai-faux autour des éco-gestes.
Ok, c'est parti. J'ai le droit à de l'aide ou pas? Je peux demander à Elodie de m'aider ou...
Non, ça serait trop facile.
D'accord, trop facile. Ok, allez.
Allez, première question. Jérémy?
Allez, vrai du faux, Ludo. On va voir si tu es attentif. Est-ce que réduire la facture de ton chauffage de 1 degré, est-ce que ça peut te faire économiser 7% sur ta facture? À ton avis.
1 degré, vrai.
Bien vu, vrai. Au-delà de 19 degrés, chaque degré de plus coûte 7% de plus sur la facture. Donc là-dessus, un truc tout bête, mettre un thermomètre dans une pièce pour vérifier la température, pour qu'elle soit la plus adaptée.
Oui.
Alors, ça devrait être presque un équipement obligatoire dans le logement, le thermomètre. Il faut absolument être équipé d'un thermomètre chez soi parce que, en fait, si on fait confiance qu'à son ressenti, selon qu'on soit fatigué, qu'on ait faim, on peut avoir une sensation différente. Donc, objectivement, on met un thermomètre et on vérifie 19 dans les pièces à vivre, 16-17 dans les chambres. C'est largement, largement suffisant. Alors, à moi de te poser une petite question. Vrai-faux, faire la chasse aux veilles inutiles permet d'économiser environ 100 euros par an.
Vrai.
Il est fort, bien vu, attentif. Effectivement. En fait, on a de plus en plus d'appareils. Alors, chaque appareil, il y a des efforts qui sont faits par les constructeurs pour coûter moins en veille, mais donc ça va quand même représenter 3 à 4 euros par équipement qui reste en veille par an. Et en fait, on en a tellement que ça peut représenter entre 80 et 100 euros par an. Alors, on utilise des prises coupe-veille. Effectivement, on en avait amené là pour l'atelier. Donc, c'est ces fameuses multiprises avec un petit bouton on-off. Ça permet effectivement de faire des économies sans diminuer son confort. Ça, j'aime bien le rappeler parce que autant baisser le chauffage, etc., on peut avoir l'impression de faire un effort. Autant là, juste appuyer sur un bouton, couper l'éveil, je ne fais pas d'effort. Donc, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Peut-être une bonne résolution pour 2025.
Voilà, qui arrive bientôt, très vite.
Encore une question, Elodie.
Moi, je vais te poser une question sur les guirlandes électriques. Tu sais que j'aime bien te piéger. Donc.
Je sais.
On est au mois de décembre, j'imagine que du coup, tu as fait la décoration de la maison, tu as dû mettre des guirlandes électriques. Est-ce que tu penses que ta consommation va augmenter de ce fait?
À cause des guirlandes électriques? Ah, je sens le piège. Donc, je vais dire non, vu que c'est un piège.
C'est une bonne réponse. On va dire que la guirlande, elle fait à peu près 5 mètres, à une puissance d'environ 30 watts. On va dire que tu l'allumes le soir quand tu rentres, donc entre 18 et 22 heures. Pensez à les éteindre, sinon ça peut faire des dégâts. On va dire que c'est sur une durée de 20 jours. Et grosso modo, si je fais un calcul, ça arrive à peu près à 4 centimes d'euros pour le mois.
D'accord, bon, ça augmente, mais très légèrement. Voilà. 4 centimes d'euros, ça va, c'est bien.
Ça se ressent pas.
Eh bien voilà, j'ai 100% de bonnes réponses. Donc j'imagine que j'ai le droit à un cadeau, vu qu'on est sur la période de Noël. J'ai déjà eu. J'ai déjà participé au dernier atelier.
Un chocolat et...
La papillote, Ludo.
Ben voilà, allez, mangeons une papillote pour se réchauffer. Merci beaucoup, Héloïse. En rappel, on peut venir vous voir au 12 bis, avenue Foch, tous les jours, sauf le vendredi après-midi. On peut prendre rendez-vous par téléphone au 04 66 49 36 65, par mail sur contact.adil48@orange.fr, ou donc les permanences en venant vous voir directement. On a donné les permanences des techniciens énergie. On peut rappeler celle des juristes, Héloïse.
Tout à fait. Donc c'est les mercredis, premier mercredi du mois à Langogne. On est également à Florac le 3e, à Saint-Chély le 4e et le premier jeudi du mois au matin, on est à La Canourgue. Voilà, donc pour toutes vos questions autour du logement, de l'habitat, de l'énergie, de la rénovation, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la DIL.
Merci bien.
Merci à toi Ludo.
Merci beaucoup.